Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes. Aujourd'hui, je ne reçois pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre invités. Soazic, Gilda, Sylvain et Anthony, bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes tous les quatre étudiants en ergothérapie à l'IFPEC à Rennes. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un projet que vous avez réalisé sur les conduites à risque, mais aussi un peu de l'ergothérapie. Et pour commencer, pouvez-vous nous présenter vite fait, on va dire, le projet ?
Alors en fait, c'est un projet qui est rentré en fait dans notre cursus de formation, donc en formation d'ergothérapie. Il a démarré en fait en deuxième année. On devait réfléchir sur une thématique en groupe qui nous plaisait, qu'on voulait mettre en action pendant notre deuxième année, notre troisième année. Donc au départ, on était parti sur des sujets un peu différents, et puis on s'est réorienté vers la sensibilisation aux conduites à risque. Voilà, on a voulu choisir comme population les étudiants parce que c'était une population qui nous intéressait fortement. Donc cette sensibilisation conduite à risque, on a voulu la mettre en action en partenariat avec le CRIJ, donc le Centre Régional d'Information Jeunesse. Donc on a pu rencontrer à deux reprises en fait la responsable du pôle santé au sein de ce centre. Et donc voilà, donc on a pu un petit peu discuter du projet, comment nous on voulait le mettre en œuvre. Au début, initialement, donc on était plus parti sur une chose un peu plus institutionnelle, entre guillemets, où on voulait vraiment faire une intervention, par exemple, en amphithéâtre avec des intervenants extérieurs. Madame Placé, qui était au Centre Régional d'Information Jeunesse, nous a un petit peu reguidés vers des choses un peu plus ludiques et un peu plus dans l'échange en fait, avec les étudiants, parce que ça ne correspondait pas forcément en fait, à ce que les étudiants attendaient par rapport à son expérience. Donc c'est orienté vers plutôt de l'échange vraiment pur et dur avec les étudiants au sein du festival Tam Tam, en fait, donc en déambulation. Donc voilà un peu le gros principe en fait du projet qu'on a voulu mettre en œuvre. En fait.
Ok, et quel était le but du projet ? Quelle était la finalité ?
Le but c'était d'aller à la rencontre des étudiants et de discuter plus que... Enfin, pour échanger avec eux sur le sujet des conduites à risque, connaître un peu ce qu'ils avaient en tête quand on leur parlait de conduites à risque, et sans être moralisateur surtout, et pouvoir surtout échanger avec eux et leur présenter quelques chiffres et les faire réfléchir à ce sujet-là.
Vous disiez que vous étiez présent à Tam Tam, et alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour provoquer ces échanges avec les étudiants ?
C'est-à-dire qu'on a créé un questionnaire où on a développé plusieurs questions, des questions ouvertes ou des questions fermées avec des différentes statistiques. Et donc on est arrivé avec ce questionnaire au festival. Donc comme Anthony l'a dit, on était plus dans la déambulation, c'est-à-dire autour du gros chapiteau central. Donc on allait facilement vers les gens, on leur demandait... Du coup, le questionnaire était vraiment en quelque sorte quelque chose pour débuter la discussion. Et du coup, on leur demandait de nous répondre et à partir de là... On avait plusieurs échanges qui...
C'était une trame un peu pour les échanges. Quoi.
Ouais. Ouais, c'était histoire de provoquer l'échange avec les étudiants. Ouais. Okay.
Voilà. Puis avoir des données un peu quand même concrètes à fournir, appuyer nos propos. Quoi.
Et pourquoi avoir choisi d'intervenir sur un festival, justement ?
Ça nous paraissait le mieux et on s'est rendu compte qu'on avait raison là-dessus parce qu'on allait vers les étudiants avec un questionnaire. Au début, on pouvait penser que ça ferait comme les gens qui viennent avec des sondages dans la rue qu'on n'a pas trop envie de voir, on n'a pas trop envie de leur répondre. Là, au contraire, les étudiants étaient prêts à échanger. Ils étaient dans ce festival pour apprendre des choses, pour trouver des bons plans, etc. Donc, on n'a vraiment pas regretté ce choix-là. Ça a permis de faire des échanges avec les étudiants de plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Sans qu'ils aient peur de venir nous répondre, sans qu'on soit repoussant.
Et par contre, vous ne vouliez pas de stand ou de choses de ce genre ?
Alors en fait, par rapport aux deux rendez-vous qu'on a eu justement avec la responsable du pôle santé du CRIJ, après le premier contact, en fait, on a rebasculé vers quelque chose de plus ludique. On a tenté de réfléchir sur justement une autre mise en œuvre du projet. Donc on avait réfléchi à un jeu de style roulette en fait avec les différentes thématiques autour des conduites à risque et en fait avec un intervenant extérieur, donc une personne en situation de handicap. Et donc en fait, ça a été difficile pour nous de mettre ça en place. Et en rediscutant avec justement cette personne au CRIJ, eh bien on a dû justement réfléchir parce que c'était pas forcément notre projet rentrait pas forcément dans ce genre de choses en stand par rapport à vraiment l'échange qui était notre principal vecteur en fait du projet. Donc en fin de compte, on a mis ça un peu de côté. Donc on est reparti sur plutôt de l'échange autour du questionnaire. Et qui nous paraissait plus approprié par rapport aussi au festival qu'on a décidé de choisir pour notre intervention. En fait.
Justement, qu'est-ce qu'il y avait dans ce questionnaire ?
Alors, il y avait une première question qui était une question ouverte sur justement les conduites à risque. Donc, on demandait aux personnes de nous donner des mots-clés, trois termes qui rattacheraient aux conduites à risque. Ensuite, quelques questions sous forme de QCM qui présentaient des statistiques liées aux conduites à risque, donc une statistique sur la consommation d'alcool, une autre sur la sécurité routière. Et enfin, une autre question sur la connaissance ou non de l'ergothérapie, de notre formation et le lien qu'il pourrait faire avec les conduites à risque.
Et vous pensez le fait que vous soyez des étudiants, ça a facilité le contact envers d'autres étudiants ?
D'où notre volonté de ne pas être moralisateur, ça n'aurait pas été crédible. Enfin, on a le même âge que la population à laquelle on s'est adressé. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à cette population-là, c'est parce qu'on est un peu tous dans le même cas. Et du coup, je pense que ça a été un bon point de ne pas être un professionnel, justement.
Et quelles ont été les réponses à ce questionnaire ?
Alors, sur la première question, donc, comme j'ai dit, c'était une question ouverte des mots qu'on rattachait aux conduites à risque. Donc, il y a eu des grands thèmes qui se sont détachés. C'était surtout les thèmes, les mots alcool et drogue, donc les thèmes de conduites addictives, et le thème de la sécurité routière. Ensuite, sur les QCM, sur les différentes statistiques liées aux conduites à risque, il y avait... Ça a montré vraiment une bonne connaissance de la population, des différentes statistiques, que ce soit en termes de sécurité routière, de consommation d'alcool, etc. Pour l'ergothérapie, connue ou non, ça nous a montré que c'était très peu connu, mais ça, on le savait déjà.
Je voudrais revenir sur les résultats. On voit qu'en première et deuxième position, on retrouve l'alcool et la drogue. Ça semble cohérent, on va dire, avec l'environnement des étudiants, mais je suis plus surpris par la présence de la sécurité routière. J'aurais plus pensé aux maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Et c'est peut-être dû aux nombreuses campagnes de prévention de la sécurité routière.
C'est vrai que c'est ce qu'on a entendu le plus souvent, quand même.
Je pense que oui, c'est clair que les différentes campagnes choc qu'on voit à la télé ont fortement influencé les gens. Et c'est vrai que c'est différent de l'alcool et de la drogue, où là, les étudiants peuvent être plus facilement en contact direct avec. Donc là, c'est sûr que c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de campagnes sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a moins retrouvé aussi.
Et puis je pense qu'aussi les spots autour justement de la sécurité routière sont beaucoup plus choquants, entre guillemets, que tout ce qui est autour de la prévention, autour de l'alcool. On voit juste des petits bandeaux en bas des pubs sur l'alcool, consommer avec modération, etc. etc. Et puis je pense que voilà, les gens ont peut-être connaissance des conséquences autour de la sécurité, autour des accidents, qui peut paraître un peu plus importante qu'une consommation d'alcool un peu excessive, entre guillemets.
Et les étudiants se sentaient-ils concernés quand vous échangez avec eux, ou vous avez l'air que ça leur passait un peu au-dessus, quoi ?
Ça dépend des groupes.
Ouais. En majorité, quand même, ils acceptaient facilement la discussion. Après, bon, évidemment, il y en avait certains qui étaient un peu pressés, mais sinon, en grande majorité, on les sentait impliqués, on a eu des bonnes réflexions, des bons échanges, franchement, c'était intéressant.
Et puis souvent, ils nous paraissaient vraiment concernés par ces conduites à risque, entre guillemets. On avait une question qui portait sur justement les échecs en première année universitaire et la consommation d'alcool, donc c'était pas forcément un lien que nous on faisait, mais on voulait les faire réfléchir là-dessus. Donc il y en a quand même pas mal de groupes qui nous ont expliqué que oui, effectivement, avec toutes les soirées étudiantes qu'on peut trouver, enfin qu'on peut faire en fait la semaine, il y a peut-être un lien entre justement cette consommation d'alcool qui peut être excessive, moins les drogues, mais surtout la consommation d'alcool. Donc oui, je pense qu'ils étaient vraiment concernés surtout par ce thème de conduite à risque. Donc on a pas mal échangé là-dessus.
Ouais. Ouais, le but était de les faire réfléchir
sur
ce sujet.
Bah, ils baignent dedans et en fait c'est un peu... c'est l'ambiance de Rennes aussi, quoi. Et ça devient, ça se banalise en fait. Et donc c'était un petit peu un objectif pour nous de, voilà, de débanaliser ça un peu et d'en parler vraiment de manière peut-être un peu choc, enfin pas vraiment choc mais ouais. un peu trash quoi, et parler des mauvais côtés et mettre un peu les gens en face de la réalité.
Ouais.
Quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait le projet, on parle de sensibilisation, mais bon, c'est pas le terme sensibilisation au sens voilà, choquant, voilà, et, moralisateur justement. C'est vraiment là, ça s'est vraiment transformé dans le sens d'un échange et aussi d'un partage de notre expérience, vu que en tant qu'étudiant en ergothérapie, on a fait plusieurs stages, on a été au contact direct de personnes qui avaient eu des conduites à risque et qui
pour conséquence, ouais, une hospitalisation.
Voilà, une conséquence, une situation de handicap. Hein, mais, donc voilà, donc, c'était plus aussi un échange et du coup un partage d'expérience. Ouais.
Et durant votre projet, vous avez fait d'autres actions ou c'est l'unique action que vous avez faite?
Alors c'est l'unique action qu'on a faite. Donc au cours du festival Tam Tam, on a présenté ces questionnaires. On a juste ensuite complété ce questionnaire par des questionnaires qu'on a envoyés cette fois-ci par mail aux étudiants de première année de notre institut. Donc c'était pour compléter de manière un peu quantitative les données qu'on avait eues, mais donc ça nous a permis de voir que les résultats étaient assez similaires à la fois sur les thèmes abordés et sur les réponses au QCM. Mais c'était vraiment du quantitatif, il n'y avait pas cet échange qualitatif qu'on avait eu lors du festival Tam Tam, donc ça permettait de compléter les chiffres, mais c'était moins intéressant en termes d'échange.
Oui, vous n'avez pas remarqué de différence dans les réponses du questionnaire entre Internet et puis dans la vraie vie?
Non, pas forcément. C'est sur l'échange où on a perdu un petit peu en qualitatif. Mais par contre, ce qu'on a voulu aussi faire, justement, par rapport à cet envoi de questionnaire aux étudiants de l'IFPEC, c'était d'avoir aussi leur vision des choses en tant qu'étudiants du paramédical. On avait croisé beaucoup sur le festival Tam Tam des personnes qui étaient voilà, en études de langue étrangère, en architecture, etc., etc. Pas forcément des gens du médical ou du paramédical. Donc c'est aussi une façon de comparer un peu ces deux groupes différents au niveau des études. Quoi.
Donc au vu de vos échanges, vous avez remarqué quand même que les étudiants avaient l'air d'être au courant des conduites à risque.
Ouais, franchement, il y avait des bonnes réponses au niveau des statistiques. Par exemple, quand on demandait si c'était vrai ou faux, enfin si c'était bien 98% des étudiants bretons qui avaient consommé de l'alcool dans le dernier mois, les gens étaient quand même assez au fait et répondaient 98%, quoi. Donc,
ouais.
Donc ils sont au courant, voilà, mais c'est un peu comme nous aussi, en tant qu'étudiants, on sait très bien, on est au courant de tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on y pense une fois qu'on est en soirée, enfin voilà, mais c'était quand même intéressant d'échanger justement là-dessus, c'est pour ça que le côté moralisateur, encore une fois, n'était pas adapté en tant qu'étudiant, enfin des... Étudiant à étudiant, c'était pas...
Ouais, vous n'aurez pas été à votre place, entre guillemets.
Non, c'est ça.
Non, et puis, par rapport à cette question, justement, de la consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours, les étudiants connaissaient la réponse, puisqu'ils, souvent, en grande majorité, ils répondaient bien. Mais c'est derrière leur réaction à dire « Ah oui, quand même, c'est quand même 80%. »
Ouais, le fait de le dire, ça fait réfléchir.
Quoi. Voilà, derrière, c'est là-dessus qu'on se basait. C'était une base, en fait, ce résultat, pour rebondir sur d'autres discussions, d'autres échanges, et justement compléter un peu... Compléter cet échange, quoi.
Me to get, you broke out of just to enjoy the sight. I see the kick in the path, bridge in the boat tie. I'm suited up for the C'était Soliloquist of Sound avec le titre Sicker Than Blood. De retour avec Gildas, Swazik, Sylvain et Anthony, étudiants à l'IFPEC, à Rennes, pour la deuxième partie de l'émission. Après avoir discuté de leur projet sur les conduites à risque, dans quelle mesure ce projet s'inscrit dans leurs études en ergothérapie ?
Donc comme le disait Gilda tout à l'heure, de par nos stages, notamment en centre de rééducation par exemple, on a pu voir des conséquences de conduites à risque. Donc on a cette vision un peu différente. On a le même âge que les étudiants auxquels on s'adressait, mais on a une vision différente de par ces stages, une vision différente des personnes en général. Donc on voulait partager cette expérience et vraiment avoir des échanges constructif sur les conduites à risque avec ses étudiants.
Justement, voilà, on parle d'ergothérapie, mais finalement, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est l'ergothérapie. Est-ce qu'un de vous peut me donner une définition de l'ergothérapie ?
Alors, qui a révisé cette définition ?
Moi, je veux bien m'y coller. J'espère que ça ne va pas être trop mal. Donc, pour être aussi succinct, entre guillemets, mais concis et précis, en fait, donc, l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale. Voilà, donc c'est une formation de 3 ans en fait, qu'on a dans les instituts, donc soit c'est par concours d'entrée ou par année de médecine, ça dépend des villes. Donc en fait, ça s'inscrit dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc c'est des situations de handicap qui peuvent être la plus liminaire, entre guillemets, possible, à vraiment des grosses situations de handicap, vraiment très, très compliquées. Et donc en fait, il y a deux pôles importants au sein de notre profession, c'est le pôle un peu plus rééducatif et un pôle plus réadaptatif. Donc en fait, au niveau de la rééducation, le but c'est d'accompagner les personnes pour essayer de leur garantir entre guillemets le maximum d'autonomie et d'indépendance. Donc dans leur vie, dans leur quotidien en fait, par rapport à leur situation de handicap. Donc au niveau rééducatif, on va travailler vraiment sur le fonctionnel. Donc c'est-à-dire que des personnes qui ont problème en traumatologie ou en neurologie. Je parle de ces personnes-là, mais bon, c'est très large en fait au niveau des champs d'activité. Mais c'est vraiment essayer de retrouver une fonctionnalité. Voilà, qui va leur favoriser entre guillemets, leur autonomie et leur indépendance dans leur quotidien.
Ouais. Et du coup, à la différence des kinésithérapeutes que les gens connaissent un peu plus, on va dire que les kinés ont plus un travail sur le muscle en tant que tel, retrouver vraiment des amplitudes, ouais, beaucoup plus analytiques. Et c'est vrai que nous, on va intervenir après eux en général, en tout cas en centre de rééducation, où là, nous, on va commencer vraiment à chercher justement une gestuelle, vraiment tout un geste. On va aller, par exemple, essayer de retrouver le geste, pour une personne qui aime bien faire la cuisine, par exemple, retrouver le geste du porter de casserole ou des choses.
C'est vraiment l'application à la vie quotidienne.
Ouais, voilà, vraiment.
C'est ça. Et donc, en fait, quand je disais énormément de champs d'activité, en fait, on peut être amené à travailler avec des populations vraiment très variées, donc avec les enfants en pédiatrie, avec les adultes, avec les personnes âgées. Donc ça peut être vraiment dans les lieux de rééducation, comme on en a un peu plus parlé. Sinon, ça peut être aussi dans des foyers, des maisons d'accueil, donc pour vraiment des situations de handicap plus importantes. Ça peut être aussi en psychiatrie. L'ergothérapie est née vraiment en psychiatrie, il y a quelques années. Et donc aussi en maison de retraite, donc dans des EHPAD. Et donc en fait, donc là on a parlé du côté plus rééducatif, entre guillemets. Et donc maintenant il y a un côté plus de réadaptation, où là c'est vraiment le retour sur les lieux de vie de la personne en fait. Donc là, on agit, on peut agir en faisant par exemple des visites à domicile. Donc pour essayer de voir quels sont les obstacles en fait au quotidien de la personne dans son environnement, soit le domicile mais aussi à l'extérieur de son domicile, et justement d'agir par la proposition en fait d'aide technique. Donc ça peut être vraiment des petites aides techniques comme des grandes aides techniques, ça va jusqu'au fauteuil roulant ou même des domotiques importantes au sein du logement. Et puis voilà, c'est tout un accompagnement en fait de la personne, vraiment du post-traumatique en fait entre guillemets, jusque vraiment le retour au domicile. Donc on a vraiment cette vision large de la personne dans son suivi en fait au sein de l'établissement dans lequel elles sont en fait après leur accident ou leur situation de handicap qu'elles ont pu rencontrer.
Vous êtes aussi un suivi psychologique un petit peu envers ces personnes, vous?
Ben, comme l'a dit Anthony, on les accompagne dans leur projet de vie. Donc souvent, on parlait tout à l'heure des conduites à risque et des gens qui accidentés se retrouvent en situation de handicap. Souvent, c'est assez compliqué de se reconstruire, de reconstruire un projet de vie. Et comme on prend part à part entière dans ce projet de vie, bien sûr qu'il y a un accompagnement psychologique, un accompagnement de la personne pour se reconstruire et reconstruire sa vie pour rentrer dans ses activités ou des nouvelles activités.
Mais l'échange est vraiment essentiel dans notre profession pour justement établir ce projet de vie. Et c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir de bonnes relations aussi pour lui permettre de nous dire aussi tout ce qu'elle souhaite faire, par exemple, pour son projet de vie.
Il y a une petite partie sociale quand même qu'il ne faut pas négliger dans l'approche qu'on a avec les patients.
Il ne faut pas être froid.
C'est vraiment, l'ergothérapie, c'est vraiment un côté médico-social.
C'est assez pluridisciplinaire en fait, parce que vous allez conseiller pour, comme vous disiez, des fauteuils roulants, vous allez en même temps l'aider à la rééduquer, à choisir, je ne sais pas.
Oui, nos actions se font aussi en équipe, les ergothérapeutes ne travaillent pas tout seuls. Donc il y a quand même des liens qui sont importants avec les autres professionnels de la santé. Maintenant, oui, il y a vraiment toute une démarche, en fait, à vraiment aller essayer de trouver au fond du patient une participation, en fait, à ce que nous, on peut leur proposer donc en activité, en séance. Et donc, c'est par cette participation qu'ils vont pouvoir, justement, regagner un peu d'estime, de confiance en eux, même en situation de handicap, et donc de réfléchir, en fait, à ce que va être leur projet, justement, à la suite, et justement, de les aider à l'accompagner au mieux dans leur projet. C'est vraiment eux qui décident ce qu'ils veulent faire, et nous on accompagne en fait. C'est vraiment un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire on va prendre des décisions à leur place, on va vraiment vouloir que ce soit eux qui vraiment mettent en place leur projet à proprement parler dans leur quotidien en fait.
Et pour revenir sur l'interprofessionnalité, vraiment le lien en fait entre les différentes professions, c'est vrai qu'on va travailler vraiment avec toutes les professions du médical. C'est-à-dire que déjà, par exemple, l'ergothérapeute ne peut pas intervenir sans prescription médicale, déjà, le médecin. Et sinon, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un lien vraiment avec les kinés aussi pour justement le côté rééducation et vraiment coordonner nos actions. On peut très bien avoir des liens aussi avec des assistantes sociales, c'est pour le côté des, et plus des aides, là, des aides humaines ou des choses.
Des financements en fait, au niveau de ce qu'on peut proposer en collaboration avec le patient en fait.
Donc voilà, que ce soit dans les centres, les aides-soignantes, les infirmières, c'est vraiment tout le personnel médical, et ainsi après que tout le personnel social aussi, justement. C'est là qu'on retrouve le médico-social, quoi.
Et les ergothérapeutes sont présents uniquement dans les centres de soins ou les institutions, ou il existe aussi des ergothérapeutes en profession libérale ou en cabinet, par exemple?
Alors, il y a assez peu de libéral par rapport aux kinésithérapeutes, par exemple. Il y a environ 15% d'ergothérapeutes libéraux. Et ça s'explique par le fait que ce n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale. Donc, les ergothérapeutes libéraux exercent principalement auprès des enfants, donc pour faire des adaptations, notamment dans leur école. Donc ça parce que c'est remboursé, et puis aussi sur de l'aménagement de domicile de tout un chacun, qui sera l'intervention de l'ergothérapeute sera pas forcément remboursée, mais ça s'inscrit dans un projet, voilà, ça fait partie du budget. Donc très peu de libéral, donc la grande majorité en institution, mais dans différentes institutions.
Et il y en a beaucoup d'ergothérapeutes, comparé par exemple au kiné ou...
Non, on est beaucoup moins, ça c'est... Je sais pas trop si...
Je connais pas le rapport, par rapport aux kinésithérapeutes, mais...
Je vais regarder sur Internet.
Il y a plus d'écoles de kiné en France. Hein.
C'est ça, ouais.
Même si ça se développe, comment là, on a vu développé. dans... En, nous, on est à l'école depuis 3 ans. Là, en 3 ans, le nombre d'écoles a quasiment doublé en France. Il y a, enfin, la plupart des régions de France ont créé une école d'ergothérapie alors qu'il n'y en avait pas. Des promotions plus petites qu'à Rennes, mais quand même de nouvelles écoles. Donc ça se développe de plus en plus.
Et peut-être que le jour où ce sera remboursé, justement, peut-être que le nombre d'ergothérapeutes risque d'augmenter.
Oui, voilà.
Logiquement.
Il y a quand même beaucoup de postes qui se créent. Enfin, on a des retours assez positifs des étudiants des dernières années qui ont eu leur diplôme. Et c'est vrai qu'on trouve normalement assez facilement du travail. C'est rien que par le fait, par exemple, qu'en EHPAD, en maison de retraite, par le vieux. Ça peut s'expliquer par le vieillissement de la population.
On calque aussi un peu le modèle canadien. Au Canada, les ergothérapeutes sont beaucoup plus connus qu'en France, en fait. Et ils sont plus nombreux que les kinés, même. Donc, on se dirige un peu vers ce...
Ouais, donc c'est un peu en voie de développement, en pleine expansion.
Vers ce schéma-là, et on va être de plus en plus nombreux.
Puis il y a différentes passerelles qui vont être mises en place. Selon les écoles, comme en parlait un petit peu Anthony, on va pouvoir intégrer une école d'ergothérapie après avoir fait une première année de médecine validée, et une première année de STAPS, par exemple. Quoi. Donc ça commence aussi à se développer et puis à accueillir aussi différentes personnes de différents horizons. Ouais.
Donc pour information, d'après la NFE, donc l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes, au 1er janvier 2013, la France compte 8539 ergos, dont 82,2% de femmes.
Enfin, pensez-vous qu'il serait intéressant de confronter des étudiants avec des personnes en situation de handicap ? Sans tomber dans le voyeurisme ou choquant, bien sûr, mais pour échanger sur les conduites à risque.
Moi, je pense que ça peut être un échange qui peut être vraiment intéressant. Maintenant, je pense que si la personne, justement, cette personne en situation de handicap, il faut vraiment qu'elle soit dans l'échange, et dans l'échange par rapport à ce qu'elle a vécu, et puis l'échange vraiment par rapport à ses difficultés au quotidien. Mais il faut que ce soit vraiment quelque chose d'assez ouvert, et de discussion, en fait, avec les étudiants, et les faire réfléchir de manière ludique, en fait, sur sa situation de handicap, en fait. Et donc, je pense que c'est un billet qui peut être proposé, qui peut être intéressant par rapport aux étudiants.
Ça a été fait, d'ailleurs,
oui, voilà.
Dans d'autres,
nous, par exemple,
d'autres
nous...
groupes de projets de notre promotion. Il y a d'autres personnes qui ont justement fait appel à des personnes en situation de handicap et qui ont fait justement un projet de sensibilisation, exactement comme nous, aux conduites à risque, mais face à un public de lycéens, je crois.
Oui, puis ça peut être aussi... Dès l'enfance, justement, là, ça va être beaucoup moins choquant ou de parler vraiment des difficultés, mais là, ça va vraiment être le côté ludique pour vraiment apprendre un peu le milieu du handicap, connaître les différentes facettes.
Je pense qu'avec l'enfance, ce serait plutôt de la sensibilisation au handicap, oui,
c'est ça,
conduite
d'art. Ça reste vraiment dans le handicap et. Et là, ça va vraiment aussi permettre de, peut-être dès tout petit, justement, d'avoir une idée du handicap et ensuite, en grandissant, peut-être avoir un peu plus les idées au clair.
Mais comme simuler une situation de handicap.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Par exemple, on a des collègues à nous de notre promotion qui, justement, dans le même cadre de projet, justement, qui ont fait passer une ou deux journées, je ne sais plus, avec des enfants de primaire, par exemple, et qui ont vraiment fait des petits jeux, des petits parcours de fauteuils roulants, des
simulations, justement, par rapport à une perte de vue, donc le travail, le toucher, en fait, et la reconnaissance des objets.
Des repas sans la vue aussi, reconnaître les goûts aussi, travailler sur les différents...
Ouvrir une porte en fauteuil, ce genre de choses, en pente en plus.
Donc quelque chose de beaucoup plus ludique, justement, et c'est bien aussi de faire ça, et je pense que quand c'est fait de bonne manière, ça peut être très bénéfique aussi pour faire connaître le monde du handicap, quoi.
C'est la fin d'Enjeux de Santé, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres informations ainsi que le podcast de l'émission sur Radio Campus Rennes. Bonne journée à tous et à la prochaine.